Bienvenue au Polysécur épisode spécial. Je suis avec Vincent. Comment vas-tu?
Hey! Salut! Salut Nick! Salut tout le monde! Ça va bien? En forme! Occupé mais en forme! Toi?
Parfait! La même chose que toi, occupé et en forme. Heureusement, les deux sont réunis. Sinon, ça serait plus triste que ça. La dernière fois qu'on avait enregistré, tu m'avais proposé des sujets. Là, on va aborder la désuétude cette fois-ci, qui est un sujet quand même très intéressant, très pertinent, puisqu'on le vit tous, même si on aimerait que la vie soit parfaite, elle ne l'est pas. Toutes nos organisations, grandes et petites, vivent avec une certaine dette technologique et de sécurité. Et nécessairement, la gestion de la désuétude est la façon propre et élégante d'adresser cet élément-là, de le gérer, de l'amener correctement à une situation supérieure et meilleure. Donc, je vais te laisser aborder ça.
Ouais, écoute, la désuétude, en fait, là, c'est un beau terme pour désigner un principe de gouvernance. Hein? Pour chaque appareil, il y a une obsolescence programmée. Hein? C'est ça à quoi je pensais. Là. Cette obsolescence programmée-là, on le sait quand on fait l'acquisition, que ce soit je parle pas juste d'équipement, là, d'équipement physique, là. Je parle de logiciel, d'intergiciel, nommez-les comme vous voulez. Puis le talon d'Achille, c'est en fait avec une saine gestion de la désuétude. Ça vous donne un super bon levier pour présenter des business cases à vos gens d'affaires pour qu'ils comprennent qu'on a besoin d'argent pour des programmes de modernisation, rehaussement, délestage, on va dire nouvelles acquisitions, etc. Fait que ça vous donne un bon levier justement pour éviter de frapper un mur puis de comme je dis, là, de laisser, de vous mettre vous-même dans le pit. Cette gestion de la désuétude, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire une belle... C'est des beaux programmes de modernisation, puis ça permet une belle anticipation, puis des maîtrises dans certaines activités qui sont plus pointues. Par exemple, premier élément, on s'assure d'avoir une infrastructure qui donne des très bonnes performances, qui est au bout du jour, qui est moderne, qui permet justement une grande flexibilité, qui est simple d'entretien et de maintenance, avec des éléments qui sont relativement très à jour. On fait beaucoup de prévention au niveau des interruptions non planifiées, donc problèmes, incidents. Donc deux processus qui sont quasi permanent dans toutes les entreprises. Tout le monde a sa recette, justement, de ces processus-là. Il n'y a pas des bonnes ou des moins bonnes recettes. On est tous sujets à des interruptions planifiées, puis c'est beaucoup plus simple de gestion lorsqu'on a les outils qui sont au bout du jour. L'autre aspect également, la gestion de nos vulnérabilités. Donc, on peut prévenir davantage l'apparition de vulnérabilités sur nos infrastructures qu'on exploite en mettant nos infrastructures à jour. Je pense surtout ici, là, que ce soit un moteur de BD, donc intergiciel, un progiciel. Donc, on écoute les recommandations du constructeur pour les rehaussements mineurs, les rehaussements majeurs, les patchs de sécurité, nos outils. Tout ça a l'air bien beau, bien facile, la façon dont je le présente, mais en dessous de ça, ça prend du monde pédale. Hein? Premier élément, une très bonne connaissance de son parc, autant physique qu'applicatif. Puis applicatif, là, j'inclus tout, là. OS, BD, logiciel, intergiciel, progiciel. Donc, première des choses, une très bonne connaissance de son parc. Les interdépendances. Hein, voyez-vous ici, là, votre entité prend de l'ampleur. Vous faites des acquisitions, vous augmentez de la performance, vous rajoutez de la prestation de service que vous aviez pas avant. Donc, vous introduisez des nouvelles solutions ou vous modernisez des solutions existantes. Ben tout ça, c'est très important dans vos référentiels de maintenir justement une mise à jour de votre inventaire puis de trouver justement les tangentes. Autrement dit, toutes les interdépendances. Par exemple, on peut introduire une nouvelle solution qui fonctionne, exemple, avec un Oracle 18X. Mais à l'interne, vos solutions peuvent pas fonctionner avec 18X. Vous allez devoir faire vivre deux solutions. Donc, est-ce que ces solutions-là vont vous mettre en péril? Comment vous... Donc, une bonne. La réponse est non. Quand on a une bonne connaissance, une bonne maîtrise de son parc. Mais s'il y a des interdépendances, ben il faut penser à ça. Alors, Nicolas, toi comme moi, on a vu des entités faire des acquisitions. Ah, on va brancher ça, ça va marcher. On branche, puis on se rend compte qu'il y a des clashs de versions. Le constructeur ne recommande pas une version X de SQL ou de Oracle. Mais on vient d'en faire l'acquisition. On n'est pas capable de les brancher. Il faut les faire vivre, on va dire, en parallèle. Au long, on vient d'ajouter de la complexité dans notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire une saine gestion de la désuétude, mais faut être très vigilant et assidu dans nos référentiels à ce moment-là.
La visibilité est un élément très, très important, puis comme en cyber aussi d'ailleurs, mais qui est en même temps très difficile à mettre en œuvre parce que je connais peu d'organisations qui ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, la subséquente, une fois que tu as bien inventorié tes choses, ben l'interrelation qu'il y a entre ces systèmes-là, c'est pas simple à mettre en œuvre. Puis ben là, tu dis effectivement, ben là, l'Oracle, c'est facile de le nommer, mais il y en a d'autres aussi qui, quand on augmente les versions, mais les logiciels qui reposent sur les versions antérieures ne suivent pas nécessairement. Donc, des fois, on n'est pas capable d'avancer en termes de version d'Oracle en même temps que le marché, puisque les logiciels qui dépendent ont des dépendances très fortes avec d'anciennes versions. Puis, vaut mieux l'avoir, le savoir d'avance, donc l'inventorier, les relations, et ainsi de suite, que d'arriver, faire la migration, puis pouf, devoir revenir en arrière. Parce qu'on n'a pas cette connaissance-là et on était un peu cow-boy dans la mise à jour en question du nouveau jouet dans lequel on est en train de déployer. Là.
Non, bien écoute, d'où l'importance justement d'avoir vos experts justement, vos experts au niveau de vos solutions puis vos architectes. Hein, vos architectes vont être capables de créer vos différents liens, vos interdépendances. Et puis ensuite de ça, le travail, c'est de regarder, bon, est-ce qu'on a des fins de vie annoncées? Est-ce qu'on a des mises à jour annoncées pour certains produits X, Y, Z? Puis les FAQ sont tellement importants à les lire parce que si vous décidiez, par exemple, de dire, j'aimerais ça unifier mon moteur de BD, Oracle, SQL, peu importe la nature de votre moteur, ben regardez les compatibilités avec vos logiciels interlogiciels. Même scénario, en connaissant bien votre parc, en faisant une saine gestion de la désuétude aussi, puis vos projets de modernisation, ben les FAQ vont vous le dire. Quand on veut rehausser une version supérieure, bon, il y a des fonctionnalités puis des goodies, des objets brillants, on va dire ça comme ça, qui sont intéressants, qui sont à valeur ajoutée pour votre prestation de service. Ben, des fois, ça vient aussi avec un rehaussement majeur de vos versions de BD. Mais encore là, comme j'expliquais, que ce soit je vais appeler ça les cartes de service, on va appeler ça les seringues, on va appeler ça comme vous voulez. Ben, il faut vous assurer justement qu'au niveau de vos dépendances, vous introduisez pas un problème qui va avoir un effet domino dans un autre secteur, par exemple. Puis, essayez de penser en amont. Pensez pas un an d'avance. Tu sais, l'horizon 3-5 ans pour une entreprise, c'est bon aussi pour votre gestion de désuétude. C'est quoi votre 3-5 ans? Commencez à y songer tout de suite, là. Qu'est-ce que votre constructeur de logiciel vous annonce? Les compatibilités, les recommandations, etc. Puis vos autres constructeurs aussi, les autres logiciels que vous utilisez, qu'est-ce qu'ils recommandent? Qu'est-ce qu'ils préconisent? Puis, il n'y a pas juste ça pour vos interlogiciels. Les interlogiciels aussi, ceux qui font l'interconnexion entre les différents systèmes, ils vous font des propositions également. Puis des fois, on peut voir le constructeur de logiciel principal qui propose X. Non, le gars de l'interlogiciel, lui, il dit non. On n'est pas rendu là. Ça s'en vient. Des fois, il y a un décalage. Mais vous pouvez vivre avec ce risque-là aussi. Là. Il y a d'autres mécanismes, d'autres méthodes. Là. Mais ça fait... ça fait en sorte que vous avez, vous mettez en place un calendrier qui est très sain pour bien gérer justement votre désuétude, anticiper les problèmes, etc., etc.
Oui, mais comme tu dis, la plupart des fabricants offrent un roadmap qui permet aux gens de savoir ce qui s'en vient. Tu as même des choses qui sont prévisibles. Microsoft en avait sorti une, là, ils ont comme décroché de tout ça, mais il y avait, je pense, deux versions par année qui étaient disponibles. Puis chaque version a des durées de vie qui sont définies aussi. Donc, on est capable de savoir le nombre de temps que c'est supporté et quand on va devoir faire les rehaussements qui sont associés. Donc, de mettre ces roadmaps-là ensemble, puis justement, comme tu dis, les faire concorder parce que peut-être que le logiciel qui est utilisé à base de données ne vit pas sur la même vitesse que la base de données. Donc, juste de s'assurer qu'ils sont bien alignés, puis de faire les plans en conséquence, puis de les prévoir. Tu sais, peut-être 3-5 ans, moi, je trouve ça loin en TI, mais quand même, de les voir arriver d'avance, ça permet de développer les budgets, planifier les projets, planifier les travaux qui sont conséquents à ça, ce qui fait que ça devient moins compliqué globalement de mettre à jour. Donc, de gérer la désuétude devient plus simple parce qu'elle est planifiée, c'est pas une surprise. Et pour le nombre de places que j'ai vues arriver en panique parce que une version de Windows ou une version d'un logiciel arrivait à la fin de sa vie, puis là qu'on devait le changer en urgence, c'est désastreux parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de prendre les bonnes décisions, pas les bonnes configs. Et un projet qui est fait, ça gueule trop rapidement, ça mène jamais à des belles affaires. Donc, on est toujours dans ce moment-là. Fait que c'est bien de le voir arriver puis de correctement le mettre dans le calendrier puis dans le grand calendrier des changements aussi, là, parce que des études s'inscrivent dans le grand calendrier des changements.
Oui, puis comme Nicolas vient de le dire, quand les éléments arrivent en catastrophe, vous avez mal anticipé, ben, il y a des coûts à ça. Puis c'est plate de travailler avec un projet puis tout le temps venir justifier une contingence. À quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose pour lequel on doit agir en urgence. Moi, ça, c'est un incident majeur. Mais quand on a nos technologies, puis on a une belle visibilité, puis on anticipe le rehaussement, le ci et le ça, c'est pas normal d'arriver avec des contingences puis en urgence. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais faudrait pas que ça soit coutume, par exemple. Comme disaient nos parents, là, faudrait que ce soit l'exception et que ça ne devienne pas la règle. Oui, ça prend de la contingence dans un projet. Ça, c'est une chose. Mais il faudrait pas que ça devienne coutume et que ça soit énergivore puis très, très, avec un gros engagement financier.
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est prévisible, les changements des grands systèmes d'exploitation sont déjà annoncés. On connaît les fins de vie, on connaît tous les éléments qui sont associés à ce genre de choses-là. On ne peut pas plaider l'ignorance. Fait que si c'est pas planifié pour le changer en urgence, c'est un problème de planification plus qu'un problème de surprise. C'est comme tu le mentionnes, il y a des exemples ou il y a des contre-exemples de compagnies qui du jour au lendemain vont décider d'abandonner une version ou du jour au lendemain vont décider d'abandonner un produit ou vont le migrer de façon à changer les licences. On l'a vu avec VMware notamment dernièrement où Broadcom a décidé de changer le licensing overnight et là, ça place la situation, les compagnies dans un état d'urgence parce que là, il y a des décisions qui n'étaient pas faciles d'anticiper. Mais pour les autres, quand on a des fonctions qu'on voit dans l'open source, normalement, les LTS et long-term support, là, c'est-à-dire que les logiciels qui sont les versions notamment d'exploitation qui sont prévisibles, de façon prévisible, disponibles pendant plusieurs années, sont supportés pendant plusieurs années, donc on peut pas arriver. Fait que on peut arriver genre à minuit moins un puis dire ah oups, non oups, c'est toi qui as mal planifié. C'est d'où l'importance d'avoir ces puis de lire comme tu mentionnes, de faire ses calendriers, d'être vigilant.
Puis j'arrive à une autre déclinaison. Là la mode, c'est plus d'avoir sa salle de serveur. Moi je trouvais ça très cool quand on avait notre salle de serveur. C'est beau, ça flash, il vente, il fait 18 degrés, il y a de la lumière partout. On a fret aux pieds, les planchers sont surélevés, il y a des fils. Là, la tendance, c'est beaucoup les fournisseurs externes. Soyez dans votre parc puis votre inventaire, soyez rigoureux. Vos fournisseurs aussi font partie intégrante de votre parc, qui vous fournissent de l'infrastructure physique, ou tout simplement virtuelles, donc OSBD interlogiciel, ou directement vos applications qui sont déposées dans leur solution infonuagique. Je ne rentrerai pas dans le CAS, dans le PAS, dans le PAS, je vais dire infonuagique ici, là, terme générique. N'oubliez pas que il y a des solutions qui reposent chez les fournisseurs. Les fournisseurs aussi ont un plan d'affaires, un plan de modernisation. Vous n'êtes pas le seul client. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important, vous êtes important pour eux. Mais ils ont aussi un plan de modernisation. Faites attention. Faites-vous des tables de gouvernance pour être capable de discuter de certains sujets, pas juste des comités opérationnels où, bon, il est arrivé un incident, on l'a géré, il y a eu un problème, on l'a géré, ben, tu m'as fait une merde qui a fait scraper ça. C'est pas juste ça, c'est aussi, hey, c'est quoi votre vision, la compatibilité avec nos outils? Hey, parlez-en avec eux autres, synchronisez vos calendriers, puis amenez de l'eau au moulin avec leur information aussi. Là. Ça va, ils font partie intégrante justement de vos différents plans de modernisation et de votre gestion de désuétude. Ça se peut que un fournisseur n'ait pas aucun investissement pour les 2 à 3 prochaines années, donc vous êtes coincé avec une version X. Tout ce qu'ils vous promettent, c'est des patchs de sécurité. La seule chose que vous pouvez faire. Mais vous avez une dépendance avec un autre outil interne qui, lui, vous devez le faire évoluer. OK, c'est quoi le plan B? Ça vous prend un plan B. Faites pas juste dire, on va accepter le risque. Non, non, non. Ça se peut que ça soit ça. C'est vrai, ça se peut. Mais ça prend le plan B, ça prend l'analyse qui a tout regardé, les avenues possibles, les coûts, puis par pitié, n'arrivez pas avec un coût, puis vous partez ça comme levier au secteur affaires. Non, ça prend la valeur ajoutée qui vient avec le coût aussi. Il ne faut pas que ça passe dans la réserve, puis qu'il n'y ait plus d'argent pour l'année prochaine.
Oui, ben c'est il y a des vraies analyses. Faut pas arriver comme ça, sur la gueule. Oups, c'est arrivé comme ça. Là, faut arriver avec quelque chose de détaillé, puis justement de comment on le fait, parce que ça fait partie du plan de désuétude d'avoir une vision de ce qui s'en vient et justement qui est clair à savoir quels sont. Si on s'en va juste sur du support long terme, justement des correctifs de sécurité, ou si on va sur une nouvelle version avec les nouvelles lumières et les nouveaux gadgets qu'on va y trouver aussi, puis il faut le vendre au business que les nouveaux gadgets servent à quelque chose, parce que des fois, juste le plan de support à long terme est suffisant pour peut-être probablement 80% des applications ou des clients à faire. Donc, justement, il y a tout ce défi-là de discussion à avoir, puis d'analyse de risque, puis de savoir ce qui se passe, puis ainsi de suite.
Là. Vous savez, ici, quand je parle du fournisseur externe, je ne parle pas d'une gestion de risque du fournisseur. Je parle vraiment de comprendre cette vision. Court, moyen, long terme, pour vous assurer de vous synchroniser. Vous synchroniser peut-être que par pure magie, il abonde dans le même sens que vous autres, vous avez le même calendrier, mais étant donné qu'il y a de plus en plus de fournisseurs très spécialisés et très génériques, puis les gens ont beaucoup tendance à justement délester de l'infra pour l'envoyer chez ces fournisseurs-là. Vous ajoutez une forme de complexité aussi. Faites attention à ça. Il faut vous assurer qu'effectivement, votre visibilité sur votre parc, la donnée que vous avez soit intégrale, intègre et tout le temps à jour pour justement rentrer ça dans votre modèle de gestion de désuétude pour justement anticiper. La désuétude, c'est de l'anticipation. Hein? C'est pas d'avoir le Pentium 133 puis le passer à 166 puis après ça c'est le 266 MMX puis tu te souviens de ça, hein? Ouf, ça fait 20-25 ans ça, oh là là,
après, ça fait longtemps, c'est plus 25 que 20 là.
Puis c'était le fun à l'époque, wow, hey, je suis rendu à 8 gigs de RAM, mon homme, oh yes, DIN, mini DIN, patati patata. C'est pas ça là, c'est de vous assurer, hey, y a-t-il un moment donné où je vais avoir une coupure, puis il y a un ou deux ou trois services que je livrerai plus, ou je vais les livrer, mais je me mets à risque. C'est surtout ça l'enjeu là, qu'il faut voir. Puis investissez les bons dollars. Puis par expérience, oui, les fournisseurs externes sont plaisants, sont le fun. Comme plan B, puis plan C, pensez à une stratégie de sortie. Des fournisseurs qui se font acheter et l'offre de service, que le contrat est scrappé. Puis c'est une nouvelle offre de service, puis une nouvelle tarification, puis un nouveau système de dictature, pour ne pas dire gouvernance, qui est en place. Ça vous prend des profils d'autres fournisseurs chez qui vous pouvez aller avec votre stratégie de sortie. Là. Votre stratégie de sortie, de, ou si vous préférez de repli, de ramener ça dans votre info. Ça fait partie aussi de vos différentes stratégies de saine gestion de votre parc de désuétude également. Là. Tu sais, ça fait.
Ouais, absolument.
Ça a l'air complexe. Ça a l'air complexe, mais être coincé avec une solution chez un fournisseur qui vient de se faire acheter, puis tout d'un coup, on a un nouveau PO qui nous appelle, puis il change les règles du jeu. Hey, ça se voit toutes les semaines. Partout sur la planète, ça se voit toutes les semaines. Ça arrivera jamais. Des changements de règles de jeu très drastiques, mais ça pourrait arriver. T'sais? Avec un
C'est arrivé. On a le cas de VMware, Broadcom VMware, qui est l'exemple type de ce que. Non, c'est pas grave, je mets 100% de mes infrastructures là-dessus, j'ai un niveau de dépendance très élevé. D'un coup, pauvre Broadcom arrive, puis je me sens pas lié par les affaires du passé, fait que je change toute la grille de prix. Puis ça, tu sais, ça a pris beaucoup de gens par surprise, mais ils ont le droit de le faire. Il y a beaucoup de choses qui sont. Fait que là, c'est la réflexion des entreprises. Puis justement, on revient au fait que ils ont toujours présumé qu'il y avait une continuité. La réalité, s'il n'y a pas de continuité, il faut toujours s'assurer d'avoir un plan de sortie. Puis j'aime bien ça, ton plan de sortie, parce que on pense que c'est fait, là, mais il y a très peu de gens ou très peu de compagnies qui le font vraiment. Et toutes les compagnies qui avaient VMware puis là, qui se sont trouvées coincées, aviez-vous un plan de sortie ou vous êtes pris les plates à terre, puis là, faites comme « Oh, oups! » Puis vous êtes obligé de vous soumettre à la nouvelle dictature du, tu sais, pour utiliser tes termes, du nouveau fournisseur. Puis il est légitimé de le faire. Ça en est un. Puis, IBM a racheté des fournisseurs, des compagnies. Il y en a plein qui rachètent régulièrement des plus petits joueurs. Même dans l'open source, ils achètent des joueurs dans lesquels disparaissent des choses comme ça. T'sais, Elastic a changé ses licences à un moment donné, justement, pour ce genre de choses-là. Donc, de toujours prévoir ces différents éléments-là. Et c'est là où, quand on a prévu, comme tu dis, ben on va être surpris, mais on aura un plan de repli parce qu'on a déjà un plan de désuétude qui est planifié pour la continuité normale. Puis si on a une coupure, ben le plan B ne doit pas être très, très loin dans la poche en arrière.
Là, votre plan B, là, à un moment donné, ça va vous coûter des piastres. Là. Quand la nouvelle dictature va être en place, là, mais votre plan B, là, s'il est bien ficelé, vous allez les prévoir, les dollars. Les dollars vont être justifiés, là. Le délai va être justifié, les dollars vont être justifiés. Puis, très rares sont les nouveaux acheteurs, disons ça, qui vont commencer à vous mettre des bâtons dans les roues, là. Ça veut pas dire qu'ils vont vous aider, même si c'était dans une clause. Comme tu l'as dit, ils sont pas garants des clauses du passé, des ententes du passé. On devrait peut-être devoir se démerder. Fait que vous avez le plan A avec de l'aide du fournisseur, vous avez le plan B. Mettons qu'on n'a pas d'aide de fournisseur. Dans votre stratégie, ça prend les deux. Ça prend des coûts. On prend pas le coût exact, ça prend un coût approx. Ça prend le délai. Le délai est très important. Là, c'est parce que les gens d'affaires vont comprendre la charge, puis l'engagement financier, etc. Bon, là, on s'est attardé un peu plus sur la stratégie de sortie, mais je voulais en venir à bien anticiper. On a de l'équipement à l'interne. On a de l'équipement et des solutions hébergées, opérées, gérées ou tout ça à la fois à l'externe. Et ça fait partie de votre prestation de service, ça fait partie de votre parc, ça fait partie de votre planification de modernisation, vos engagements financiers à moderniser l'infrastructure. Mais la stratégie de sortie est un inconvénient là-dedans, un enjeu, mais c'est que ça pourrait survenir. C'est rare que ça va survenir sur 8 ou 10 fournisseurs à la fois, mais ça vous prend quand même des solutions, le plan A, le plan B, le plan C. Hein? Voyons ça comme ça. Puis écoute, moi, Nico, je suis un peu mitigé. La très grande entreprise, je peux comprendre. On éparpille chez des fournisseurs certaines de nos solutions. Il y a vraiment un avantage comparatif à faire ça d'un point de vue coût, flexibilité, entretien, peu importe. même si on vient complexifier notre infra, il y a quand même des avantages comparatifs. La PME, je reste encore très mitigé parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir son centre de données à l'interne, géré à l'interne, ou l'avoir à l'interne et le donner à l'externe pour une gestion, pour un entretien, avant d'aller trop vite vers de l'info nuagique à gauche et à droite, même si les objets sont très brillants, à moins d'être très peu éparpillé. Mais quand on est une PME très éparpillée, je me poserais quelques petites questions. J'aurais une réflexion entre le boss puis son boss TI, on dirait on fait ça à bonne affaire. Oui. Parce que, mais c'est ça, je reste encore mitigé. Mais j'ai encore la petite fibre de ma salle de serveur qui est pleine avec qui flash là.
Avec les lumières, oui. Mais oui, je comprends, puis je suis un peu de cette nature-là aussi, d'aimer avoir le contrôle un peu sur ce qu'on a. Puis tu parlais de l'infonologie, puis j'ai pas rebondi là-dessus aussi par les changements. Puis moi, l'exemple que j'ai en termes de vitesse de changement, ça va être M365 où à tous les jours, il y a de nouvelles fonctionnalités, des choses qui changent et ça va vite. Et Microsoft écoute peu ses clients, ils avancent. Eux autres ont un plan de changement, le plan est en action. Ils avertissent, heureusement, d'avance. Il y a des calendriers qui sont consultables. J'ai pas vu la même chose chez Google, mais j'imagine que ça doit exister aussi. Et AWS, la même chose. Puis ces calendriers sont là justement pour nous aider à prévenir la clientèle, adapter nos processus, modifier les choses qu'on doit faire ou à poser une action pour activer ou mitiger les changements qui vont arriver. Ce genre de choses-là. Ça l'impose, cette cadence-là. Malheureusement, j'ai vu très peu d'organisations qui ont tiré profit de ces informations-là, justement pour les amener plus loin, les aider à cheminer. Et dans ce cas-ci, ils avancent. Fait que là, si vous n'êtes pas prêt à gérer votre désuétude, le fournisseur va le mettre en pleine face. Vous n'aurez juste pas le choix et ça va tout casser. Vous n'aurez juste pas le choix.
Ça fait penser à un ancien podcast qu'on a fait où Microsoft avait été légitimé par les autorités américaines pour dire « Bon, les compagnies qui sont pas à cette version-là, là, ben vous allez vous connecter, puis les forcer, puis laisser une belle petite note à l'ouverture de Windows en disant « Hey, mon délinquant, j'ai upgradé tes versions de Windows, tu mets nos infrastructures, nos infrastructures à risque, à risque. » J'avais trouvé ça excellent.
Oui, absolument. Puis dans ce cas, c'est un cas particulier parce qu'il y avait vraiment des attaques de pays étatiques dans ce cas-ci. Là. Puis c'est malheureux qu'on doive se rendre jusque-là pour qu'il y ait une intervention là, en même temps. Puis ça, c'est une absence de gestion des études de façon là, flagrante et immense. Puis à la limite, on devrait avoir, puis là, ça, je vais glisser un peu ailleurs, une autorisation d'être sur Internet. Et c'est de cette autorisation-là. Si on n'est pas un bon citoyen, notamment par le fait qu'on n'a pas des infrastructures à jour exposées, le fournisseur Internet devrait pas être légitimé de pouvoir couper notre accès Internet à tout moment parce que ça cause des problèmes. Là, je parle de la grande entreprise parce que chez des plus petits clients, je sais qu'ils coupent l'accès Internet quand ils voient que le site est infecté, ils coupent. Mais dans des plus gros clients, ils font pas ce genre de choses-là. Donc, d'avoir à ce moment-là comment on peut trouver un élément où les fournisseurs Internet avec les forces de l'ordre ou peu importe la mécanique qu'on met en place soient capables d'intervenir et de dire « Ah, toi, t'es pas à jour, on coupe, t'as pas le droit d'avoir accès à Internet tant que tes infrastructures sont pas à jour. C'est un exchange sale, il est sale, ben quand il sera plus sale, t'auras le droit, mais d'ici là, t'as pas le droit, c'est tout. C'est comme sur la route, on peut pas conduire dans n'importe quelle condition. On est autorisé selon certaines choses. Donc, si on ne respecte pas les règles, on ne peut pas conduire. C'est la même. Tant qu'à moi, c'est un peu la même chose. Mais bref, c'est une petite écartade.
Écoute, c'est éveillé ce que tu dis là. Écoute, c'est très... I'm about to drop the hammer and disperse some undiscriminate justice. Hein? Comme dirait...
Pas très loin, mais en même temps, c'est... Warcraft, oui, absolument. Puis dire là, c'est une forme de négligence qu'on a, on peut le voir de plusieurs façons, puis je pense qu'il est temps qu'on intervienne dans des collectivités, parce que la quantité de problèmes qu'on a, là ça c'est bien, parce que là on vient d'aborder la gestion de désuétude de façon organisée, ordonnée, C'est bien parce que ça va l'amener une place qui ne fait que ces organisations-là qui font ce genre de planification-là se trouvent pas être dans la liste des serveurs qui sont fermés en urgence par le FBI parce que c'est dangereux, parce que c'est ainsi de suite. Fait qu'eux, ils sont organisés. Mais ceux qui sont négligents, ben ceux-là, on doit trouver à les punir d'une façon ou d'une autre parce que ils nuisent à l'ensemble, ils nuisent à la collectivité en agissant de façon négligente. C'est sans dire que je compare ça nécessairement, c'est peut-être un peu extrême de comparer ça à l'alcool au volant, mais tu sais, ça va plus loin, ça va plus dans le sens d'une conduite dangereuse et négligente face à ça, le non-respect des stops, des lumières, des limites de vitesse et ainsi de suite pour être plus rapproché par rapport à... Fait que ces gens-là, oui, mais si on sont de pogne, ben, faut que tu payes. Parce que t'as
pas respecté les règles. Je vais te donner un exemple très, très concret. pas expérience vécue. Mais tout le monde connaît le grand son logiciel. Hein? La prise en otage, le mécanisme de prise en otage de vos données. Comme Nicolas dit, vos systèmes sont vulnérables, vous êtes négligent, vous êtes cow-boy. Sachez ceci, hein? Vous êtes branché chez un fournisseur. Le fournisseur est peut-être pas très... est peut-être bien équipé pour anticiper le rançon logiciel, mais peut-être que ses mécaniques peuvent pas... Il y a peut-être des trous dans sa mécanique. Vos clients qui se connectent chez vous, vos fournisseurs chez qui vous êtes connectés, là, ça, tout ça est bidirectionnel. Le rançon logiciel, c'est quand vous êtes le petit voyou, le petit bandit au travers de ce groupe-là, ben vous êtes probablement le vecteur d'infection qui peut avoir un effet domino. Imaginez, vous êtes un client, je suis un fournisseur Internet majeur, là, Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron. Bon, j'ai nommé les quatre majeurs canadiens. Quelqu'un chez vous, vous savez pas qui, intercepte un rançon logiciel, clique dessus, commence à infecter, commence à traverser les mailles du filet, débarque chez le fournisseur. Le fournisseur n'est pas capable de l'intercepter à temps. Infecte de façon aléatoire, parce que même ça marche. Peut-être des clients particuliers, peut-être des entreprises à gauche et à droite. Il y a des bonnes chances qu'on remonte jusqu'à vous puis qu'on vous traîne en justice pour avoir des dollars. Pas pour vous mettre en prison, pour avoir des dollars puis vous exposer comme étant un voyou. Ben moi, c'est le rançon logiciel qui est tellement aléatoire et imprévisible, hors des temps, peu importe sa mécanique, sophistiquée, advanced threat, patente à gosse ou très simple, les répercussions pouvaient être un vecteur justement d'infection à grande échelle.
Oui, absolument, mais là, on a complètement dévié de la gestion de la désuétude. Revenons un peu à la gestion de la désuétude. Moi, j'ai rien à ajouter. Est-ce que tu avais couvert l'ensemble de ce que tu avais ou un mot pour fermer?
La seule chose, c'est l'idée est simple. La mise en place est complexe. Vous pouvez vous permettre des erreurs quand vous voulez mettre une mécanique comme ça en place. Soyez indulgents, là. Faites pas juste des essais-erreurs, là, t'sais, apprenez de vos erreurs aussi. Mais l'objectif au bout, là, c'est que vous allez maintenir justement une belle cadence dans la modernisation de votre infra, puis vous allez avoir un meilleur contrôle sur vos dollars dépensés pour la valeur ajoutée que vous offrez justement à votre infrastructure, meilleure protection, meilleure performance, meilleure disponibilité, meilleure sécurité, les interventions amoindries, donc interventions que j'appelle standard, entretien maintenance régulière et non problème incident à tout bout de champ. Vous allez être capable de voir justement avec vos investissements une réduction justement des interventions qui sont dolles et plates comme incident et problème. Vous allez avoir un parc qui va être beaucoup plus stable, vous allez donner beaucoup plus des indicateurs de stabilité aussi à votre infrastructure. Puis, au bout du compte, ben, c'est vos clients qui vont aussi, par ricochet, en bénéficier, là. lorsqu'ils vont demander de la prestation de service.
Non.
Les systèmes vont être disponibles, ils vont être performants, la qualité de l'information va être là, puis vos employés de première ligne, c'est rare qu'ils vont se plaindre.
Oui, absolument. Puis un des éléments que tu n'as pas mentionné, c'est la réduction des coûts. Ce qui a l'air d'un exercice qui va coûter. Et oui, il y a des coûts de mise en place, mais une fois que c'est déployé, il y a une réduction de coûts parce qu'on n'est plus dans l'urgence, on est dans le planifié, on voit les coûts arriver. Donc, on est capable de planifier correctement et donc de réduire à terme les coûts que les compagnies ne vivent comme des pompiers qui éteignent des feux tout le temps et à régler des problèmes sur la gueule qui font juste courir au prochain problème.
Tu sais, une gestion de problème incident, là, on entend parler souvent, là, c'est une mécanique, on n'a pas le choix. Voyez ça comme un sinistre. Hein? Une voiture en ordre avec un conducteur assidu va déclarer pas mal moins de sinistres. Donc, avec une infrastructure en ordre, performante, où on met les bons dollars aux bonnes places, ben il va avoir beaucoup moins de déclarations de sinistre. Vous allez vous rendre compte qu'il va avoir beaucoup moins d'interventions, justement, de ce type-là. Ça coûte cher, un incident. Ça coûte pas mal plus cher que ce que vous pourriez penser. Ouf, j'ai 3-4 techs là, avec le gars des affaires qui ont géré ça, puis le gars des risques. Puis, non, hey, ce monde-là, on travaille en dehors des heures. Ils ont un tour à faire. Ça coûte cher. Puis est-ce qu'on a compris la cause racine? La cause racine, bon là, on embarque dans un autre sujet, là, mais bonne gestion de désuétude, modernisation, réduction des interruptions. Donc, moins de coûts reliés aux interventions, on va dire, de sinistre informatique.
Notamment. Merci beaucoup de cette présentation-là, parce que je pense que les gens en ont peur un peu de la gestion de la désuétude. Puis je pense que j'espère qu'on a fait un pas en avant pour aider les gens à prendre en main et justement correctement s'outiller.
Ouais.